Comment vit-on quand on est demandeur d'asile? Avec quels espoirs, quelles colères, quels rêves? Immigration et droit d'asile, quelle réalité, était le thème abordé lors d'une soirée qui s'est déroulée jeudi 18 décembre, organisée par l'association Colère du Présent et animée par Radio PFM. Au programme, une lecture de textes issus d'ateliers d'écriture réalisés avec Jérôme Leroy et des résidents du CADA d'Arras, le centre d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi qu'un débat ouvert. La lecture des textes a suscité beaucoup d'intérêt auprès des personnes présentes. Entretien avec les comédiens lecteurs, Florence Mazur et Olivier Brabant, juste après le débat.
Comment vous avez abordé ces textes et comment vous les avez travaillés ?
On a eu beaucoup de matière et c'est vrai que ce sont des histoires extrêmement riches, profondes, douloureuses. Donc il ne s'agissait pas de faire pleurer la galerie, mais vraiment de partager ces récits de vie extrêmement concrets, quoi. Le travail pour nous a été en même temps de rester fidèle, c'est-à-dire de jamais non plus tomber dans quelque chose d'une sensiblerie négative, mais de rester fidèle à ces récits et de trouver quelque chose de concret à partager et puis de faire ressortir aussi tout ce courage finalement et à la fois aussi ce courage de l'écriture, puisque c'est aussi après ces récits de vie des gens qui ont eu le courage de passer au partage.
J'imagine que vous avez une petite mise en scène aussi. Comment vous avez travaillé au niveau de la coupe, etc., la forme ?
On a voulu rester très simple avec travailler avec des pupitres. On ne voulait pas enrober les textes d'autre chose. Il fallait que ça reste le plus simple possible. C'est une commande qu'on a eue au moment du festival du 1er mai. On avait déjà fait la première fois cette lecture, mais on a vraiment voulu rester au plus proche du texte, au plus proche des histoires, ne pas nous interférer dedans par une mise en espace, avec des lumières. Non, il fallait rester, je pense, le plus proche et le plus simple possible pour qu'on puisse faire passer, j'espère, ces histoires le plus simplement possible. Voilà.
Vous êtes sensible au sujet qui était abordé. Est-ce que vous avez entendu parler de cette réforme qui a été votée pour le droit d'asile et ce que vous en pensez éventuellement ?
Moi, j'ai entendu, mais très vaguement, j'ai compris qu'ils voulaient qu'il y ait une diminution du temps d'attente. Donc, c'est quand même une chose très positive. Je pense que il y a d'autres propositions, mais ça, je suis pas du tout au courant du tout de ça. Moi, c'est ce que j'ai entendu rapidement à la radio, comme quoi il y avait cette volonté de vouloir diminuer le temps d'attente, parce que ça a l'air d'être terrible pour eux, d'être toujours dans cette attente, à ne pas savoir où.
Comment se reconstruire aussi, comment construire une nouvelle vie, quoi. Voilà.
Est-ce que vous avez l'habitude, en tant que comédien, de travailler sur ce genre de texte assez engagé? Et si oui, vous avez peut-être d'autres exemples aussi sur d'autres textes que vous avez déjà eu l'occasion de lire?
De lire des textes de gens qui ont écrit leur histoire. Ça m'est arrivé il y a très 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 longtemps, mais c'est une histoire incroyable parce que je travaillais sur un spectacle dans la région de Grenoble et on avait demandé à des élèves de collège d'écrire, de parler de leur vie. J'allais lire leurs textes, mais on ne disait pas de qui étaient les textes parce qu'on ne voulait pas que ça pose des problèmes parce qu'il y a des choses très très personnelles dedans. Et en fait, à la fin de la lecture des textes, qui étaient donc sans nom, on ne savait pas qui avait écrit ces textes-là, au fur et à mesure, tous les élèves ont dit ben, « En fait, moi, le premier texte, c'est moi. Le deuxième texte, ah ben, c'est moi. » Et en fait, ils ont accepté, après la lecture, qu'on mette un visage sur ces histoires. Et en fait, entre eux, c'était assez émouvant parce que ce qui s'est passé entre eux, c'est qu'ils ont enfin compris les histoires des uns et des autres. Voilà, et c'était la règle du jeu, de ne pas savoir. Et puis, en fait, au fur et à mesure, les choses ont été dévoilées. Et ça a permis ça. Donc ça, c'était un exemple un peu d'une histoire qui ne sont pas les mêmes. Hein. Parce que là, ce qu'on a lu ce soir était des choses très...
Cela dit, le 1er mai, on a rencontré, on savait que, voilà, que les personnes qui avaient participé à l'atelier d'écriture étaient dans la salle au moment de la lecture et on les a rencontrées après. Et pour nous, c'était très fort.
C'était très fort.
Une réforme du droit d'asile a bien été votée par les députés français. Cette réforme a été sollicitée par l'Union européenne qui s'inquiète que la durée d'examen des demandes d'asile prenne jusqu'à plus de 2 ans. Rencontre avec Rachida Gomari, assistante sociale au CADA d'Arras. On évoque avec elle cette réforme, les difficultés rencontrées au sein du CADA, sans oublier le ressenti de cette soirée.
La réforme de droit d'asile vient d'être votée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qui ressort de ça, à votre avis ?
Le plus important qui ressort de ça, c'est le rétrécissement, on va dire, la plus courte durée pour la réforme du droit d'asile, en fait. Donc, passer à 9 mois, ça serait l'idéal pour les personnes qui sont en attente de cet entretien à l'OFPRA, qui parfois dure plus d'un an.
Alors par contre, il y a pas mal d'associations qui pensent que ben, il y a quand même un souci financier qui ressort de ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Apparemment, les budgets votés pour l'aide seraient en baisse.
Ah oui, effectivement. Ouais. Mais déjà, on le sent, nous, hein, puisqu'on a eu une augmentation de charge de travail. Alors, on était un travailleur social pour 15 usagers. Et là, actuellement, avec le prix de journée qui baisse, on va dire, ça década, on devrait être à 1 pour 20 maintenant. Donc ça, on le ressent aussi, puisqu'au niveau de la charge d'accompagnement de travail, elle sera beaucoup plus importante et beaucoup plus lourde.
Quelles difficultés vous rencontrez ? Est-ce qu'elles sont plutôt d'ordre politique, social, économique ?
Nous, c'est plus des difficultés, on va dire, sociales et aussi économiques, puisque pour les résidents qui sont chez nous, ils ont ce qu'on appelle l'allocation mensuelle de subsistance qui leur est versée, donc à hauteur de 202 euros par mois. Bon, c'est vrai que c'est peu pour eux. À côté de ça, quand ils ont, qu'ils sont déboutés, ils n'ont plus droit à aucun, on va dire, revenu. Donc ils se retrouvent avec rien dans des centres d'hébergement d'urgence, dans des... ou alors à la rue, hein, mais avec plus du tout de revenus. Donc là, c'est des problèmes économiques, on va dire, social aussi, bien sûr, sinon on ne serait pas là, et politique, parce que bon, on vit avec les politiques, de toute manière, le CADA vit au niveau des décisions qui sont prises au-dessus, on va dire, et nous, après, bon, forcément, ça retombe sur nous, que ce soit dans les CADA, dans les centres d'hébergement, dans ce qui se passe actuellement à Calais aussi, donc ça, voilà, ça forcément des retombées sur nous.
Dernière question, vous étiez donc au débat, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce qu'il y a des choses positives qui sortent de ce débat ?
Oui, parce que bon, d'abord le débat, moi je parlais du livre aussi avant, qui était très, ce que j'ai dit tout à l'heure, qui était très émouvant, parce que bon, on voit la vie des demandeurs d'asile différemment quand elle est comme ça écrite. Bon, sauf que nous, quand on a les dossiers, c'est plus pour essayer de les aider dans leur démarche. Et bon, on essaie de passer ce côté d'émotion pour aller rechercher les bonnes informations. Et bon, par rapport au débat, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas encore ce que c'est vraiment la demande d'asile, ce que viennent chercher ces personnes en venant en France, qu'elles attendent exactement en restant ici, à quoi elles s'exposent si elles retournent dans leur pays, et puis bon, à quoi elles s'exposent aussi quand malheureusement qu'elles sont déboutées, qu'elles n'ont pas le statut de réfugiées.
2 étudiants ont réalisé une petite vidéo sur le CADA. Ils nous expliquent entre autres les raisons de ce petit film et le déroulement de ce projet.
Martin Gentil, étudiant éducateur spécialisé à Avion.
Je suis Nicolas, je suis étudiant moniteur éducateur à l'ESS d'Avion.
Vous avez réalisé dans le cadre donc de cette soirée spéciale un film sur le CADA d'Arras. Vous pouvez me dire un petit peu comment ça s'est passé ?
Au départ, il y avait vraiment un entretien avec les demandeurs d'asile. Donc ils étaient plus impliqués dans les débats. Donc nous, on a présenté les professionnels au sein du demandeur d'asile, dont Hélène, qui est éducatrice spécialisée au sein du CADA d'Arras.
Et sinon, au niveau purement technique, donc moi, je suis réalisateur-monteur à côté. Donc moi, j'ai géré la technique au tournage, au montage. Et donc en fait, au début, le point de vue qu'on avait choisi, c'était celui des demandeurs d'asile. Et puis finalement, on a demandé à un demandeur d'asile de venir directement lors de l'exposé pour donner son point de vue. Du coup, la vidéo, on s'est dit, ça sert à rien de remettre le point de vue des demandeurs d'asile vu qu'on va l'avoir en direct. Donc le point de vue dans la vidéo est devenu celui d'une éducatrice spécialisée qui travaille au sein du CADA.
comment vous avez sélectionné un peu les images, vous avez beaucoup de rush, vous avez dû choisir, faire des choix, comment ça s'est passé sur le côté on va dire artistique de la forme?
En fait, on voulait respecter au maximum l'intimité des résidents, donc on a pris seulement les parties communes de l'établissement, sur la demande du directeur de l'établissement et de l'éducatrice, et aussi des demandeurs d'asile.
Est-ce que vous connaissiez l'existence du CADA d'Arras avant, et du coup maintenant avec le recul, qu'est-ce que vous en pensez de cette organisation, mais en même temps des résidents eux-mêmes?
Donc en fait, à la base, on, comme un peu tout le monde, on confondait un peu tout ce qui était les migrants, les sans-papiers, les SDF et les demandeurs d'asile. On mettait un peu tout le monde dans le même sac. Donc on a pu découvrir que c'était complètement différent et que les structures comme ça nous restent encore méconnues, mais sont intéressantes pour ces personnes qui cherchent la sécurité.
Vous avez également assisté au débat, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu pas mal de choses positives?
Oui, déjà le fait des lectures par des acteurs, par des comédiens, je pense que du coup les textes sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus forts. Et puis ce qui était bien, c'était qu'on n'était pas dans une lecture misérabiliste, quoi. Comme ils l'ont bien dit, les comédiens, ils ont leur ligne directrice, c'était justement la dignité, l'espoir, donc pour ça c'était réussi.
Donc personnellement, j'ai trouvé que l'intervention de ces deux comédiens était intéressante, car ils ont réussi à retranscrire l'histoire de la vie d'un demandeur d'asile et de projeter leur histoire autour de plusieurs personnes.
Les principaux intéressés de la restitution de l'atelier ainsi que du débat sont bien évidemment les demandeurs d'asile et résidents du CADA d'Arras. L'occasion pour eux d'exorciser quelque peu la situation à laquelle ils sont confrontés. Rencontre avec deux d'entre eux, on parle de leur parcours et des raisons qui les ont poussés à quitter leur pays, ce qu'ils ont retenu de ce temps fort, et on discute également football.
Je suis Elhadj Alpha Ba, je viens de la Guinée-Conakry.
Alors, tu es demandeur d'asile depuis combien de temps à peu près?
Je suis demandeur d'asile, ça fait un an.
Et tu es au CADA depuis un an?
Non, je suis au CADA depuis mars 2013.
Alors, avant d'être au CADA, alors, tu faisais quoi exactement?
Moi, j'étais venu juste pour passer des congés, mais je suis arrivé, comme vous le savez, l'Afrique c'est toujours des trucs, donc il y a eu des petits soucis. Donc sinon, moi, mon objectif, c'était pas de rester en France, parce que j'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, mes deux enfants, des bébés surtout, 2 ans, 5 ans, donc je ne pensais même pas que j'allais rester ici pour de bon, quoi, et les laisser là-bas, parce que ça me fait du mal.
Et du coup, les raisons pour lesquelles tu n'es pas reparti et que tu es resté ici, c'est lesquelles?
En fait, je travaille déjà pour une association française basée en Guinée. Je suis bibliothécaire, en plus de ma licence en cadre supérieur en développement pour mon pays. J'écrivais des journaux, j'ai créé une association littéraire. On faisait des revues, mais des revues locales quand même. On dénonçait pas mal de choses sur la mauvaise gouvernance. On a sorti la dernière parution et du coup, moi je ne pensais pas que ça allait poser assez de problèmes. Donc je suis venu pour mes conseils et là, on m'envoie un mandat d'arrêt.
Et du coup, ta famille qui est restée là-bas, est-ce que tu arrives quand même à les contacter?
Ça n'a pas du tout été facile parce que ma femme a été obligée de quitter la maison parce que la barbarie militaire en Guinée, si vous vous souvenez surtout en 2009, lors de la marche pacifique de l'opposition où 157 personnes ont péri sous les balles des militaires, des femmes ont été violées en pleine journée, donc ça... J'ai vu à la télé, j'ai vu des victimes de ça, donc je ne pouvais pas me retourner compte tenu que c'est des militaires qui sont partis me chercher.
Comment se passe la vie au sein du CADA?
Morose, monotone. Ouais, on se lève le matin, on n'a rien à faire, à part le bénévolat ou vraiment des actions de bénévolat, oui, qu'on essaie de faire par-ci par-là, mais sinon la vie est monotone, morose, ouais.
Il y a eu un atelier d'écriture qui a été effectué avec Jérôme Leroy. Toi, tu y as directement participé?
Indirectement, parce que à mon arrivée au CADA, ça coïncidait aussi à la fin de cette œuvre. Quoi. Donc moi, je n'ai pas pu participer réellement à ça, mais quand même, après, j'ai participé aux réunions qu'organisait Colère du Présent, aux ateliers d'écriture, tout et tout. Donc je pense que c'est bien.
le débat, les lectures par les comédiens, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es satisfait de ce qui ressort de cette soirée?
Déjà, je trouve que vraiment c'est de très bons comédiens. Vraiment, ils sont formidables. Ils ont su interpréter, ils ont su se mettre à la place des demandeurs d'asile, vraiment pour livrer leurs sentiments de nos vécus, nous, demandeurs d'asile.
Souma Ibrahima, nationalité guinéenne. Ici au CADA, ça fait un an et demi. Hein. Donc, je suis au CADA. Mais tout se passe bien.
Comme Eladj, tu es demandeur d'asile. Tu es arrivé en France quand exactement?
Je suis arrivé en France, c'était le 20 août 2012.
Alors, avant d'arriver au CADA, qu'est-ce que tu faisais? Comment tu as connu justement le CADA? Comment tu es arrivé sur Arras?
J'étais à Paris. J'ai demandé d'asile politique là-bas. Après à Paris, j'ai fait 8 mois après. J'ai eu une association, l'association, j'ai demandé le logement. Avant 8 mois, j'ai demandé l'association. L'association, ils m'ont dit, bon, partout ils vont trouver le logement. Si je peux aller, je dis oui, je peux aller. La France, c'est la France. Même si je vais partout, c'est la France. Ils m'ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Un jour, ils m'ont appelé. Ils ont dit, Souma, tu dois aller à Arras. J'ai dit, ok, pas de problème, je suis prêt. Ils m'ont donné mon ticket. J'ai pris mes bagages à l'hôtel, donc j'ai pris le TGV. Je suis venu à Arras. J'ai trouvé une assistance qui est venue m'accueillir à la gare, Madame Christine. C'est comme ça que je suis venu au CADA.
Pour quelle raison tu as quitté ton pays pour venir en France?
J'ai quitté dans mon pays parce que j'avais eu un problème. Dans mon pays, moi, ma vie était en danger concernant de mes activités politiques. Parce qu'en tout, j'étais un homme de terrain. C'est à cause de ça, j'ai quitté mon pays pour venir en France.
Comment tu trouves, toi, la vie au CADA? Comment ça se passe?
La vie au CADA, vraiment, je dis, ça se passe bien. Je me sens à l'aise, je me sens en sécurité. Vraiment, ils sont là-bas, on nous donne des bonnes idées, on nous apprend vraiment... ce qui est bien pour nous. Même on fait les bénévolats, on nous envoie dans les bâtiments pour travailler avec les gens. Ça nous donne beaucoup d'expériences dans la vie.
Et alors le débat de ce soir, les lectures qui ont été effectuées, qu'est-ce que tu en penses?
Cette lecture m'a beaucoup attiré. C'est des lectures vraiment... C'est des lectures vraiment qui va réfléchir, qui va te donner beaucoup d'idées. Ce que j'ai entendu comme lecture, ça m'a beaucoup, vraiment, beaucoup, beaucoup attiré. Et je suis très content de cet regroupement aujourd'hui. Vraiment, je suis très content de ça.
Alors apparemment, tu joues au foot?
Oui, je suis footballeur déjà, avant tout. Depuis l'âge de 10 ans, 13 ans, je commence à jouer le football. C'est un métier donc, que j'ai beaucoup adoré. Je fais l'éducateur sportif aussi.
Tu as trouvé un club ici à Arras? Tu joues à Arras?
Oui, j'ai trouvé. Depuis que je suis rentré en France, j'ai trouvé directement un club là où je... Avant d'abord, j'étais à Franconville, à Paris. En même temps, j'ai donné des coups de main aux éducateurs sportifs, les enfants U13, U14, jusqu'à U18. Je faisais ça là-bas à Paris. Quand je suis venu ici aussi, j'ai continué le même métier. J'ai donné même les coups de main. C'est des bénévolats, je ne suis pas payé ni rien. C'est pour juste parce que c'est un métier que j'adore.
Du coup, tu vas pouvoir me donner ton pronostic sur la Ligue 1, puisque tu as découvert la Ligue 1 de football française. Alors...
Bon, avant tout, je suis parisien, je supporte le Paris. J'espère que Paris va aller loin. Mais le football, on ne peut pas dire que c'est ça, alors que le football, c'est comme un biscuit, donc ça peut se casser. Mais j'ai l'espoir quand même que le Paris peut aller loin. Mais pour prendre la coupe, bon, je ne peux pas dire, mais on ne sait pas. Mais je vois 3 clubs qui peuvent remporter cette coupe. Je commence à le Real Madrid, Paris et Bayern. Hein.
Ah ouais, ça, c'est pour la Ligue des Champions, alors. Mais du coup, en parlant du Paris Saint-Germain, ça ne te gêne pas un peu qu'une équipe ait beaucoup, beaucoup d'argent et que les autres équipes sont complètement, on va dire, pas démunies, mais pas loin?
Oui. Bon, Paris, ils ont les moins. Mais je vois les joueurs qui sont à Paris, c'est des joueurs de haut niveau et c'est des joueurs respectés. Si je parle un joueur que je l'ai beaucoup adoré, Cabaye qui joue au milieu, un monsieur qui vraiment il fait le football comme moi aussi. Je suis un milieu récupérateur. Donc quand même, Paris, ils ont une équipe quand même. Ils ont une équipe compétitive. J'adore cette équipe. Et je les souhaite aussi d'aller loin. D'ailleurs, nous sommes en difficulté en championnat. Il y a toujours un point entre Marseille et Paris. Je veux que le Paris soit toujours devant Marseille. Donc, je ne suis pas content avec cet écart un peu. Là, un point, c'est le football. Hein, tout peut arriver. Mais j'ai confiance quand même en mon club, en mon équipe Paris Saint-Germain.
On termine ce sujet par quelques mots du président de l'association Colère du Présent, Éric Bellino, à l'origine de cette soirée spéciale. Il nous donne son ressenti sur l'événement et nous livre son opinion sur la réforme du gouvernement concernant le droit d'asile.
Comment vous avez trouvé cette petite soirée ?
Ben, j'étais étonnamment surpris par le nombre de personnes et puis surtout par la participation au débat où les gens étaient vraiment intéressés. Donc nous avons bien sûr entendu les comédiens et j'ai trouvé très émouvant puisque j'ai participé à l'atelier d'écriture. Mais bon, c'était vraiment une très chouette soirée dans le sens où vraiment les gens ont vraiment participé au débat pour une fois et je les ai trouvés pertinents, intéressés et voilà.
L'atelier d'écriture, comment ça s'est mis en place et comment ça s'est passé ?
Avant que c'est... Là, je vais rendre ce qui est à César à César. C'est Didier Andraud, l'ancien président de Colère du Présent, qui avait eu ce projet-là. Bah, il m'a redonné un peu après le bébé, sachant que je partais en stage au CADA, puisque j'ai repris une formation de moniteur éducateur à l'époque. Et donc, c'est un projet qui a été monté avec le CADA, Colère du Présent et la ville d'Arras, où on était parti du principe en disant que ça serait bien que ces gens-là puissent avoir un peu la parole et parler un peu de leur chemin de vie et puis de leurs conditions de demandeurs d'asile. Et voilà, donc la première partie du futur livre, puisqu'il doit avoir un livre, Nour et Norbert, sera sur les demandeurs d'asile.
Comment ça s'est passé, la relation dans l'atelier avec les demandeurs d'asile ? Est-ce qu'ils s'y sont prêtés facilement ? Est-ce qu'il a fallu les aider un peu plus pour vraiment les faire participer ?
Au début, ça a été un peu difficile. Ils ne savaient pas trop ce qu'on attendait. Je pense que le lien s'est créé un peu entre moi, eux, et puis l'écrivain. Et puis aussi le lien entre eux, parce que parler de son chemin de vie autour d'un groupe, c'est pas forcément facile, parce que ce sont des chemins de vie, la plupart du temps, qui sont quand même assez traumatisants, violents, avec torture, et puis des visions de mort. Voilà, c'était vraiment pas facile. Donc il y a eu des hauts et des bas, comme chez les demandeurs d'asile, parce que ce sont des personnes qui sont tout le temps en attente, qui sont tout le temps dans le questionnement, dans la crainte, dans la peur, l'insécurité. L'atelier a vécu avec des hauts et des bas, mais quand on voit le résultat, je trouve que c'est vraiment extraordinaire.
Et dernière question, tu peux nous dire deux mots sur cette réforme de droit d'asile qui vient d'être actée par le gouvernement ?
Moi, ce que j'en pense, c'est vraiment que cette nouvelle réforme, bon, tant mieux, mais j'y crois pas tellement parce qu'il y a un tel retard au niveau de des demandeurs d'asile sur les réponses. Je pense qu'on est en train de mettre un pansement sur un phénomène, sur un petit bobo, et qu'on va pas encore au fond des choses. Je sais pas comment on peut... être directif en face de gens qui ont connu déjà des traumatismes, imposés à un demandeur d'asile d'aller à un CADA, par exemple, dans le centre de la France ou dans le sud de la France. Je trouve que c'est un peu difficile. Je ne sais pas comment les gens vont réagir, les demandeurs d'asile vont réagir. Je ne sais pas comment ils vont le vivre. Je pense que ça va être encore un traumatisme supplémentaire ajouté à leur propre traumatisme. Donc je trouve que ça fait déjà un peu beaucoup. Je pense que là, on n'a pas tenu compte vraiment encore une fois de l'humain et qu'on a regardé qu'un côté pratique pour désengorger. Parce que ce sont que deux villes en fin de compte. C'est Paris et Lyon. J'ai lu les conséquences, on parle vraiment que de Paris et de Lyon et je trouve ça un peu dommage, ça me fait penser à toutes ces réformes où on fait des nouvelles réformes pour des minorités alors qui vont concerner une majorité. Je trouve ça vraiment un peu dommage.
C'était un sujet autour de la soirée lecture-débat en faveur des demandeurs d'asile du CADA, organisée par l'association Colère du Présent et qui s'est déroulée le jeudi 18 décembre à l'Hôtel de Guine à Arras. Si vous désirez plus d'infos sur le centre d'accueil des demandeurs d'asile et son fonctionnement, un numéro de téléphone 03 21 59 29 60.
Dela amor.